Aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince.
Soyez un centre de nutrition, soyez une église nourricière, soyez un ministère qui nourrit. Nourrissez, nourrissez, ne vous en faites pas pour le leadership, ne vous souciez pas des 10 choses que vous avez à faire, des 100 choses à faire sur le plan administratif et tout ça. Votre première priorité, vous les leaders, votre première priorité, les pasteurs, est de vous asseoir à ses pieds et écouter et recevoir. Laissez-le vous servir le pain. Et vous savez, la Bible dit, Jésus dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Boire, ce n'est pas puiser. Souvent, vous vous tournez vers lui pour puiser un serment pour les autres, pour obtenir quelque chose pour les autres. Vous pouvez puiser de l'eau pour d'autres personnes et ne pas la boire. Vous pouvez puiser et quand même mourir de soif. D'accord ? Non, il a dit, « Venez à moi et buvez. » Boire est une chose très personnelle. Boire est une consommation personnelle. C'est pour vous, personnellement. Boire est pour vous. Vous ne pensez pas aux autres, vous n'avez qu'à boire, venez à lui et buvez. Buvez, buvez, buvez. Ensuite, des fleuves d'eau vive couleront de vous. Maintenant, les fleuves d'eau vive sont pour les autres. Ils sont pour les autres. Maintenant, vous savez, quelquefois dans une situation, dans une conférence, j'ai envie de m'éloigner des loges pour être seul, parce que j'ai besoin de ce genre de choses. Je peux comprendre les pasteurs qui... Vous savez, certains pasteurs qui... prêchent toujours le même sermon, je les comprends. Où qu'ils aillent, c'est le même sermon. D'accord ? C'est vrai. Mais quant à moi, j'ai besoin d'entendre ce que le Seigneur a. Parce que pour moi, cette chose qui est nécessaire est très nécessaire. Alors quelquefois, dans un sermon, il y a une combinaison de beaucoup de sermons, mais c'est toujours un sermon différent. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais buvez. Buvez. Lim ? Lorenz ?
Lim ?
Lim ? Continuez à boire. Lim veut dire boire en chinois. Hokkien, Hokkien. En chinois ? Ha ! Ha ! Vous vous souvenez ? Hi ! Ha ! Continuez à boire et de ton ventre couleront des fleuves. Les fleuves sont pour les autres. De l'eau vive, pas seulement de l'eau vive. Les gens seront rafraîchis autour de votre présence. Ils seront rafraîchis. C'est ainsi que vous vous nourrissez. Pasteur, prioritisez cela. Leader, prioritisez cela. Ne permettez pas au diable de vous distraire de beaucoup de bonnes choses au lieu du ministère de l'alimentation. Vous savez, Jésus, quand il est ressuscité des morts, souvenez-vous, au bord du lac de Galilée, il pêchait, vous connaissez l'histoire. Et puis la Bible dit ceci, il dit, « Avez-vous pris quelque chose ?» Rien, il croyait qu'il était un étranger au début. Ensuite, l'un d'eux réalisa que c'est le Seigneur. Qui réalisa ? Il est dit le disciple que Jésus aimait. Amen. En d'autres mots, c'est la 5e, mais... Ah non, 4e fois que cette phrase apparaît. À chaque fois qu'elle apparaît, il y a la vérité. Et la 4e fois qu'elle apparaît dans la Bible, elle dit « le disciple que Jésus aimait ». Elle ne dit pas « Jean ». Le disciple que Jésus aimait a dit « c'est le Seigneur ». Donc à chaque fois que vous pratiquez, vous devenez conscient de l'amour du Seigneur pour vous. Vous devenez quelqu'un au discernement rapide. Une perception rapide. Plus rapide que n'importe qui d'autre. Parce que vous êtes conscient de l'amour du Seigneur pour vous. Amen. Alors Pierre, qu'a fait Pierre ? Il a sauté dans l'eau pour nager vers Jésus. D'accord ? Maintenant, en passant, cela n'est pas écrit pour nous. Mais il y a des versets qui disent que lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, il donna des instructions. Et Pierre, vous vous en souvenez ? Et puis plus tard, sur la route d'Emmaüs, les disciples revinrent. En fait, après que Jésus eut disparu. D'accord, il s'en alla, il ne fut plus visible. Amen, ils prirent la communion. Ils firent un trajet de 11,2 km vers Jérusalem pour rejoindre les autres disciples, afin de leur dire qu'ils avaient vu le Seigneur. Mais quand ils arrivèrent au Cénacle, ils dirent « Nous avons vu le Seigneur ». Ils avaient vu le Seigneur eux aussi. Et ils dirent « Et il est apparu à Simon ». Le même jour. Donc, cette entrevue nous est cachée. Personne ne sait rien de cet entretien. Nous pensons que le Seigneur l'a corrigé sur les rives de la Galilée. Non, cela c'est de la restauration au ministère. La correction, elle nous a été cachée. Même Paul a dit dans le 1 Corinthiens au chapitre 15, il dit que lorsqu'il fut ressuscité des morts, il fut vu par Pierre. Il a mentionné Pierre, ensuite les disciples, ensuite les 500. Amen. Donc Pierre a été restauré. Mais c'est une chose d'être restauré dans sa conscience, une autre chose d'être restauré dans le ministère. Jésus s'est assis avec lui et Jésus dit, il lui posa cette question, « Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ?» Auparavant, je pensais que « plus que ceci » faisait référence aux poissons. « M'aimes-tu ? » Oh, tiens, des poissons. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ? Mais ensuite, j'ai réalisé que, dans le Cénacle, Pierre a en fait dit, même si tout ceci, les disciples, il l'a dit devant eux. Il a dit, si tout ceci devait te renier, je ne te renierai jamais. Je ne te renierai jamais. Alors maintenant, le Seigneur dit, Pierre, et maintenant il dit quoi au Seigneur ? Je t'aime plus que ceci, n'est-ce pas ? Vous connaissez tous mon enseignement. Il représente les croyants qui se vantent de leur amour pour le Seigneur. Et Jean se vante de l'amour du Seigneur pour lui. Amen. Donc il dit, même si tout ceci te renie, je ne te renierai jamais. Je t'aimerai. Là où tu iras, je te suivrai, même en prison et dans la mort. Il dit cela dans le Cénacle. C'est rapporté dans un évangile, même en prison et dans la mort. Alors le Seigneur dit, m'aimes-tu plus que tout ceci ? Il a fait un Lorenz. M'aimes-tu plus que tout ceci, Seigneur ? Tu sais, je... Philéo en grec. Nous ne voyons cela que dans le grec. Ça n'existe pas en français. C'est juste « je t'aime ». Mais en fait, en grec, cela se distingue. « Je t'aime ». Vous savez que j'avais l'habitude de vous dire que je vous agapais, l'amour qui se sacrifie. Je renonce à tout pour toi. Seigneur, j'ai réalisé « je t'aime » à ce niveau où j'ai de l'affection pour toi. J'ai de l'affection. Je t'aime bien. Ça, c'est Philéo. Au niveau du philéo, le Seigneur dit, en d'autres mots, en essence, il dit, vous réalisez que ce n'est pas votre amour pour moi, c'est mon amour pour vous. Donc même au niveau du philéo, il dit quoi ? Nourrissez mes agneaux. Donc les agneaux sont les plus jeunes, mais il dit, nourrissez-les. C'est aussi le ministère de la jeunesse. N'ai-je pas raison ? Vous savez, quand Jésus a jeté le talit sur la fille de Jaïrus, je crois que ça se passe partout dans le monde. Je crois qu'il est en train de jeter sa justice sur cette jeune génération. Cette génération qui, dit-on, est sans espoir. C'est dur. Elle est de l'autre côté parce que vous savez quoi ? Ils ont accès à des choses auxquelles nous n'avons jamais eu accès. Ils sont exposés au péché à un âge plus précoce. En d'autres termes, ils disent que c'est une génération morte. Jésus jetterait son talit, amen, sa robe de justice sur cette génération morte. Et ils ressusciteront, amen. 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 Et partout, je le vois relevant cette génération. Et ce dont ils ont besoin en ce moment, c'est d'être nourris. Nourrissez mes agneaux. Et il demanda à nouveau. C'est la restauration au ministère. Il demanda, Pierre, est-ce que tu m'agapais ? De nouveau, il demanda, m'aimes-tu d'un amour auto-sacrificiel ? Alors la deuxième fois, il demande, Seigneur, tu sais que je te philéo. Maintenant, il a appris une leçon. Il ne s'agit pas de son amour. Il s'agit de l'amour du Seigneur pour lui. À ce stade, il dit, « Paix mes brebis. » Maintenant, c'est un mot différent. Oui, ce n'est pas « nourri », c'est « paix ». Mais remarquez, « nourri mes agneaux » vient en premier. Puis, « paix mes brebis ». « Paix mes brebis », c'est leur apporter des soins. Vous savez, un berger prend soin d'eux, ce qui signifie « ayez une surveillance ». Littéralement, le mot, c'est « avoir une surveillance ». Vous voyez ce dont ils ont besoin dans l'esprit. Vous voyez quoi ? Et encore une fois, et on revient à la nourriture, parce que le pilier pour votre troupeau, c'est la nourriture. Amen. Mais en même temps, le berger doit prendre du recul et regarder vers quoi se dirige le troupeau. Est-ce qu'il y a de l'eau là-bas ? L'eau est-elle trop agitée, trop sauvage, pour qu'elle soit à l'aise, pour qu'elle ait envie de boire ? Amen. Il a une surveillance. C'est donc un berger. Le mot « épiscope », surveillant. Et Pierre dit, « Paissez le troupeau de Dieu. » Plus tard, il a écrit dans son épître, « Prenez soin du troupeau de Dieu, sur lequel Dieu vous a établi surveillant. Dieu vous a désigné épiscope, avoir une autorité sur le peuple. » Littéralement, le mot, notre mot français « scope » vient de là, « surveillant, surveiller. » Amen. Puis finalement, il dit, « Pierre, est-ce que... » Maintenant, vous savez ce qu'il fit ? La dernière question, « Est-ce que tu me philéo ? » Il descendit à son niveau. Et il dit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Tu sais que je n'aime que toi. » Et le Seigneur lui sourit et lui dit, « Paix mes brebis. Paix mes brebis. » Quel honneur. Quel honneur. La bouche qui a nié le connaître. C'est la même bouche qui, quelques jours plus tard, amen, 50 jours après, le jour de la Pentecôte, il prêcha. 3000 personnes furent sauvées. Et vous savez sur quoi il a prêché? Vous savez ce qu'il prêcha? Regardez ce qu'il prêcha le jour de la Pentecôte. Il dit au peuple juif, « Vous avez renié le saint. » Mais vous avez renié le saint et le juste. Il était tellement conscient de la justice, il était si plein de la révélation de la grâce, qu'il peut pointer son doigt vers eux et « Vous avez renié le saint !» Donc nous pouvons être ainsi, vous savez, si plein de grâce, que notre passé ne nous affecte plus, non pas ce que vous étiez, c'est ce que sa grâce a fait de vous. David, revenons à David. Quand David, vous avez vu qu'il a été oint avec une corne d'huile, quand le premier roi d'Israël, il fut oint avec une fiole d'huile, et l'huile coule sur la tête. Donc, la fiole, dans le livre de l'Apocalypse, est une image de la colère de Dieu. Les anges versent la fiole de la colère de Dieu. David a donc été oint avec la corne de bélier, la mort du bélier mâle, Jésus-Christ. Amen. Et ensuite, vous voyez que le peuple suivit Saül en tremblant. Le peuple qui est venu à David, en fait, ils étaient l'armée des 3D, n'est-ce pas? Détresse, endetté et dépité. Ils sont devenus des hommes puissants. Ils sont devenus des tueurs de géants, comme lui. Mais il y a autre chose que je veux vous laisser. Et vous devez voir cela. C'est que, quand il était là-bas, il a apporté du pain. C'est une image de notre Seigneur Jésus-Christ, une autre magnifique image de Jésus. Le Père l'a envoyé avec du pain, du fromage, des provisions pour ses frères. Le Père a envoyé le Fils, et la première venue de notre Seigneur Jésus, il est venu comme un enfant. Amen. Le bébé né à Bethléem était d'abord pour la maison d'Israël. N'oubliez pas. Amen. Il dit, ne va pas vers les gentils, va vers la maison d'Israël. Ce n'est que lorsqu'il fut rejeté, qu'ensuite il vint pour le monde entier. Bien sûr, Dieu l'a ordonné ainsi, mais il faut que ce soit le juif d'abord. Il dit, il lui faut accomplir sa promesse aux juifs d'abord. Vous me suivez jusqu'ici? Alors le Père a envoyé David pour le bien-être de ses frères. Tout comme Joseph, le Père a envoyé Joseph, vous vous en souvenez, pour le bien-être de ses frères. Les frères campaient quelque part, il a envoyé Joseph. Donc encore une fois, c'est une image de Jésus, vous la voyez? Ensuite, quand il était là, il a vu le géant. Quand Jésus est venu, Israël était intimidé. Le monde était sous la domination tyrannique du diable, Satan. Et David l'a tué d'une seule pierre. En fait, pour combattre, il faut utiliser une épée. Mais il n'a pas utilisé d'épée avant que l'homme ne soit mort, n'est-ce pas? Il lui a coupé la tête, il a utilisé une pierre parce qu'il blasphémait le Seigneur. Et la peine pour le blasphème est la lapidation. Amen. Donc David a utilisé la pierre. Elle est allée se loger droit dans sa tête, et le géant est tombé. Et la Bible dit, vous savez, ce n'est pas comme tous ces films romantiques, stupides, les films d'horreur, vous savez, les films avec des monstres, le monstre est tué, et le gars embrasse la fille. Non, il lui coupe la tête. Parce que je vous le dis, il se relève toujours. Amen. Je ne regarde pas de films d'horreur, mais quand j'étais jeune, j'en ai regardé quelques-uns. Vous savez, et invariablement, le monstre se relève toujours. D'accord? Pendant qu'ils s'embrassent. Pas vrai? Et la musique reprend. Non, coupez-lui la tête. Coupez la tête du gars. David savait quoi faire. Il savait que dans la ville, il fallait prendre la tête. Alors il a pris l'épée de Goliath et il lui a coupé la tête. Il leva cette tête et tout Israël s'exclama. Ils ont chassé l'ennemi. Et ceci est très intéressant. J'aime ce genre de petits détails. Je ne sais pas pourquoi. Je suis comme ça. D'accord? C'est pour mon propre plaisir. Mais je ne savais pas que je prêcherais sur tout ça. Vous savez, et donc j'aime étudier les nouvelles petites nuances dans la Bible. Il est dit que David garda l'armure de Goliath dans sa tente. Amen. Mais il alla à Jérusalem. Donc l'armure est là, mais où est la tête? Il apporta la tête à Jérusalem. Mais la bataille est en dehors de Jérusalem. C'est à des kilomètres de Jérusalem. Pas si loin, mais vous savez, un certain nombre de kilomètres. Mais nous y avons tous été. Quand vous allez à Jérusalem, c'est calme. Quoi a-t-il apporté la tête là-bas? Il doit avoir eu une révélation. Parce que Plus tard, l'endroit où il enterra la tête commença à être appelé Gal-Goliath. Le lieu où se trouvait le crâne de Goliath, bien plus tard, a été altéré. Au fil des temps, les noms des lieux sont altérés. C'est devenu Golgotha. L'endroit du crâne. Le crâne de qui? Le géant. Où Jésus sera crucifié, le plus grand fils de David, conquérant un plus grand Goliath pour nous tous. Amen. Mais voici la chose sur laquelle je voudrais vous laisser. Quand il était au champ de bataille, quand Goliath sortit et recommença sa tirade et se vanta avec fierté sur comment, vous savez, il savait qu'il était un combattant. Il savait que personne ne pourrait s'approcher de lui. C'est pourquoi la chair est si grosse, elle crie si fort, vous pouvez être si facilement intimidé. Mais notre combat, le combat est celui du Seigneur, il n'est pas basé sur le bras de la chair. Alors, vous savez ce que David fit? Au fait, c'est ce que je voulais que vous voyiez. Ses frères étaient venus à lui. Ses frères sont des guerriers. David est un jeune berger. C'est ce que dirent les frères. Regardez, je ne veux pas que vous ayez cette attitude. Dieu vous a confié, à vous tous, le troupeau. Mais regardez la New Creation Church, regardez les autres églises, et vous dites que, vous savez, vous devenez mécontent de votre peuple. Ne faites pas cela. Les gens sont des gens. Ils sont tous précieux pour Dieu. D'accord? Si vous n'êtes pas un intendant, avec des gens au-dessous de vous, pourquoi Dieu vous en confierait-il plus? Et Dieu est toujours à la recherche de quelqu'un qui aime le troupeau. Afin qu'il le lui confie, il recommandera à des gens pendant leur rêve, en mettant des désirs dans leur cœur, d'aller chez vous. Mais il sait que vous ne nourrissez pas. Vous n'avez pas la nourriture. Vous avez cette attitude. Quelle attitude? L'attitude des frères. Regardez. Je sais qu'aucun de vous ne l'a. J'en parle simplement, d'accord? Et Eliab, son frère aîné, entendit pendant qu'il parlait à ses hommes. La colère d'Eliab s'embrasa contre David et lui dit « Pourquoi donc es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis ?» Quelques brebis. Vraiment? Premièrement, on ne nous dit pas qu'elles sont un petit nombre. Probablement, elles n'étaient pas un petit nombre. Jessé était assez aisé. Il était l'arrière-arrière-petit-fils d'un homme riche, Boaz, qui avait épousé Ruth. Nulle part il ne dit peu de moutons, mais l'attitude. Vous n'êtes pas un soldat, mais de cela est sorti ceci, et ces quelques moutons. C'est ainsi qu'est un esprit non pastoral. Ah, rien qu'un troupeau. N'ayez pas cela. Qu'a dit David à propos du troupeau? Descendons. Quand il était devant le roi Saül, voici ce que David a dit, roi Saül. David dit à Saül, « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Ce sont les brebis de mon père. Ce sont les brebis de mon père. » Ne regardez pas les gens en disant, « Ah, ce sont seulement, vous savez, les mêmes personnes qui me donnent les mêmes problèmes. » Non, ce sont les brebis du père. Et Dieu vous les confie. Amen. Pour vous donner la supervision. Oui, allez-y, louez le Seigneur. Donnons-lui des louanges, alléluia. Et vous voyez cela dans l'attitude de David. Un seul, rien qu'un agneau pris par un lion. Est-ce qu'il a dit, eh bien, vous savez quoi, ce n'est qu'un agneau, de toute façon. Rien qu'un agneau, un seul, vous savez, j'en ai d'autres. Était-il prêt à laisser partir celui-là? Non, il a poursuivi le lion. Il s'est emparé de la barbe, de la crinière du lion, et a tué le lion. Et ensuite, ce fut l'ours. Pas vrai? Alors, laissez-moi seulement vous demander avant de partir. Vous savez, quel est, au fond de votre cœur, vous n'avez pas à lever les mains. D'accord? Mais quelle est votre attitude envers votre troupeau, votre travail, votre ministère? Est-ce que vous dites, par exemple, « Oh, ce petit travail, ces petites brebis, ces quelques brebis, ou est-ce plutôt... Ce sont les brebis de mon père. Et je suis si privilégié que l'on me donne cet honneur. Amen. De les surveiller, de les nourrir. Amen. Je sais que c'est un défi. Je sais, comme je l'ai partagé hier, parfois, des choses étranges vous arrivent avant de prêcher. Mais ne laissez pas cela vous priver de l'esprit. Tout ça, c'est pour vous empêcher de nourrir le troupeau. Encore une fois, en levant la main, combien d'entre vous trouvent leurs petits défis parfois drôles? Des choses drôles arrivent. Vous vous disputez avec votre femme, vous savez? Des choses arrivent que normalement vous ne feriez pas, d'accord? Cela arrive juste avant. Quelqu'un parmi vous? Comme je l'ai dit, parfois au milieu de la nuit, vous levez votre cœur bat très fort. Vous pensez que vous avez une crise cardiaque, quelque chose du genre. Je sais que quelqu'un a déjà vécu cela avant. Pas vrai? Vous êtes sur le point de prêcher au milieu de la nuit, vous vous réveillez, vous ne savez pas pourquoi, vous ne pouvez pas vous rendormir, et vous êtes censé dormir parce que vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin de repos, mais vous êtes tout à fait éveillé. Qui vous a réveillé? L'attaque. D'accord? Je le sais. Mais je dois vous dire que le diable a tellement peur de votre ministère de l'alimentation. Pas vrai? De nourrir les gens qui viennent, il sait qu'il va venir. S'il peut frapper le berger, que va-t-il se passer? Les moutons vont se disperser. D'ailleurs, c'est ce qui a été dit de notre Seigneur Jésus, quand ils sont venus l'arrêter. Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Et écoutez, nos brebis n'ont pas à se disperser parce qu'il fut frappé. C'est ce qui a été écrit sur lui. Il a été frappé, amen. Alors pensez toujours, Seigneur, tu as pris les coups, amen. Notre combat est de nous reposer. Mais une fois que vous le reconnaissez, au moins vous le savez. Mais tant que vous ne le voyez pas, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est certainement pas Dieu. Dieu veut que vous vous reposiez, mais réalisez que c'est une guerre. Mais écoutez attentivement, cela doit être un compliment pour vous. Ne vous acharnez pas inutilement. Amen. Alors, remerciez Dieu, et maintenant vous savez pourquoi vous vous disputez, pas vrai? Mesdames, si vous êtes une épouse, comprenez votre mari. D'accord? En d'autres termes, plus de conversations lourdes. Quand le week-end approche, Wendy et moi avons un accord. On ne parle pas des choses lourdes. Ça devient trop lourd? D'accord. Stop. La paix. Temps mort. Amen. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Pareil pour vous? Ouais? Oh, elle l'a dit au petit déjeuner hier. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Ok, de toute façon, ce sont de bonnes choses. D'accord. Louons Dieu. C'est bien. Je connais ma femme. Mais vous savez, c'est... Nous sommes dans un combat spirituel. C'est un combat. Un combat spirituel. Tout ce que le diable peut faire, c'est vous distraire. Amen. Au fait, comme vous le savez, frapper le berger et les brebis se disperseront. C'est dans le contexte de Zacharie. Réveille-toi, ô épée. Le Seigneur parle. Réveille-toi, ô épée. D'accord? Frappe le pasteur. Vous savez que c'est la dernière occurrence de l'épée dans la Bible? La première occurrence est une épée qui coupe tout chemin à l'entrée du jardin d'Éden. Après qu'Adam et Ève eurent été chassés. D'accord, il y avait un ange, un chérubin avec une épée qui tournoyait, ça et là. Donc l'épée parle du jugement. Et enfin, la dernière mention, c'est la première mention de l'épée. La dernière mention de l'épée, et je terminerai par cela, c'est vraiment la dernière mention est dans Zacharie. Réveille-toi, Dieu parle, réveille-toi. Ô épée, frappe le pasteur. Et qui est le berger? Son fils. L'épée a été déplacée dans le cœur de son fils. À la croix. Amen. Ainsi le chemin est ouvert pour nous tous. Dieu vous bénisse. Amen. Louez le Seigneur. Alléluia.